Radio Kapi. Oh,
Kapi. Pascal Masirika à la présentation.
À la une de l'actualité ce soir, les lampions se sont éteints ce mercredi à Lilongwe au 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le Malawite Lazarus Chakwera et son homologue congolais Félix Tshisekedi Tshilombo ont été élus respectivement président et vice-président de cette organisation régionale. Plus de 400 personnes présentent des signes de diarrhée suite à la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasai. C'est ce que révèle la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, affirme que les eaux contaminées ont causé la mort des poissons et des hippopotames à Ilebo. Notre invité, c'est le chargé de communication de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ludovic Diomi parle des bourses d'études supérieures octroyées à 57 lauréats ayant obtenu plus de 85% à l'examen d'État. C'était là l'information principale. Madame, Messieurs, bonsoir. Fin ce mercredi à Lilongwe du 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les participants aux assises de deux jours ont élu à l'occasion le docteur Lazarus Chakwera du Malawi et son homologue Félix Tshisekedi de la RDC, respectivement président et vice-président de la SADC, ce qui prédestine le chef de l'État congolais à la présidence de la SADC en août 2022. Et puis, le Botswanais Elias Mpedi Magosi a été élu, quant à lui, nouveau secrétaire exécutif de la SADC en remplacement de Lawrence arrivé fin mandat. Après l'Union africaine en 2021, la RDC va présider en 2022 la CEAC et la SADC. Ouvrons la page santé à présent. Plus de 400 personnes présentent des signes de diarrhée, conséquence de la pollution des eaux des rivières Chikapé et Kasai. C'est ce que révèle la ministre de l'Environnement suite aux échantillons qui ont été prélevés à deux reprises. Eve Bazaïba Massoudi parle des substances qui ont contaminé les eaux et causé la mort des poissons et des hippopotames à Ilebo. Ces propos ont été recueillis par Billy Van Lutumba.
Il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriés connaissant des cas de diarrhée. Le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires sur terrain. Nous savons que ça sera très, très difficile. Donner l'alternative à l'eau n'est pas la porte à côté parce qu'il y a toute la population riveraine. Nous avons vu des éléments satellitaires pour voir tous les corridors de la rivière Chikapa, rivière Kasai, sortis vers... on n'est plus dans les Kasai, on va jusque dans les Kwilu et dans les Maïndombe. Et demain, après demain, on peut retrouver ces substances ici sur le fleuve Congo. Et c'est un danger permanent, mais le gouvernement va faire un effort pour donner l'alternative à certaines questions. Il y a l'eau, il y a l'aide humanitaire nécessaire pour que la population puisse s'approvisionner autrement et essayer de limiter les dégâts. Parce qu'en termes de dégâts, il y en a déjà. Voilà pourquoi, pour le moment, nous sommes dans la démarche de demander à ce que cela soit stoppé immédiatement parce qu'il s'agit de la vie humaine. Il y a une forte équipe de haut niveau du gouvernement qui va arriver sur terrain en mission de solidarité, en mission humanitaire. Et dans toutes ces contrées, nous avons le Kasai, le Kwilu et le Maïndombe. Et il y a encore une autre démarche vers le pays frère de l'Angola.
Pendant ces temps, au Nord Kivu, l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo a enregistré 242 nouveaux cas de coronavirus la semaine dernière. Annonce faite ce mercredi par le coordonnateur intérimaire de cette structure, Guy Makelele, affirme que ces statistiques sont inférieures à celles de la semaine dernière. Il a dit à Florida Kahambu.
Nous commencerons par Alimbongo, qui en a notifié 4, Butembo 45, Kalunguta 4, Katwa 63, Kaina 6, Kiondo 16, Mangurijipa 4, Masereka 14, Musenene 5, Vuovi 7, Beni 70, Kamango 3, Oicha 1. Un cas confirmé. Donc c'est vraiment Beni qui avait notifié le plus des cas pendant la semaine 32, suivi des 4, puis Butembo. Même si on a eu un peu moins de cas confirmés pendant la semaine 32, mais nous avons eu beaucoup de décès communautaires, 22, répartis de la manière suivante. Béni, 9 décès communautaires, suivi de Katoa avec 4 décès communautaires, Boutembo, 3 décès communautaires, Kalunguta, 2, Mangurujipa, 2, et Vuovi, 2.
Et puis, reprise hier mardi de la vaccination contre le coronavirus dans tous les sites de la République démocratique du Congo, le ministère de la Santé publique fait remarquer que cette campagne de vaccination concerne les personnes ayant déjà reçu la première dose du vaccin AstraZeneca. D'autres précisions avec vous, Jean-Pierre Elali Koko.
Les 133 zones de santé identifiées en République démocratique du Congo, 521 sites ont été planifiés, dont 344 mis en œuvre. La ville de Kinshasa comprend à elle seule 120 sites, dont 107 mis en œuvre. À titre d'exemple, on peut citer les centres médical Diamant, les SEMCA, Monkolé, la clinique Ngaliema et les centres hospitaliers des Nations Unies. La ville de Kinshasa est suivie du Haut-Katanga avec 93 sites planifiés et du Lualaba, 85 sites planifiés. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont chacune 75 sites et le Congo central avec 55 sites planifiés. Le Kwilu est la dernière province avec seulement un site planifié et mis en œuvre. Cet ordre correspond logiquement au taux des cas positifs enregistrés dans les provinces touchées par la pandémie. Le gouvernement affirme qu'il multiplie sans relâche les efforts pour l'acquisition d'autres vaccins qui permettront de vacciner tous les groupes cibles. Pour rappel, la campagne de vaccination anti-Covid a été lancée officiellement le 19 avril dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Elle a été suspendue temporairement le 9 juillet pour rupture des vaccins.
Autre nouvelle, plusieurs blessés, des marchandises brûlées, une baleinière calcinée. C'est le bilan d'un incendie survenu lundi soir à Dimalumbu, village situé à près de 12 km de la ville de Bandundu dans la province du Kwilu. L'engin avait été loué à Ilebo par des Indiens pour récupérer ces marchandises qui avaient été laissées après le naufrage d'une autre baleinière qui les transportait. Le curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul affirme qu'une autre baleinière venue de Kinshasa a chaviré dans la même nuit à Dima où plus de 2500 sacs de maïs ont disparu. L'abbé Godet s'est confié à Irène Boma.
La semaine passée, il y a eu une baleinière avec la marchandise des Indiens pour les magasins à Ilebo. Et arrivé au coin de Kandolo, la baleinière a fini la course sur un gros rocher. La population a secouru, ils ont enlevé les histoires, il y a d'autres histoires qui sont parties dans l'eau. Finalement, les Indiens ont pris à location une autre baleinière à partir d'Ilebo pour venir prendre la marchandise laissée à Dima. Cette baleinière a chargé le samedi, le dimanche et le lundi. Aujourd'hui matin, ils devraient quitter. Mais subitement, à 0h, la baleinière a pris feu. Elle-même. Toute la marchandise est brûlée. Il y a aussi une autre baleinière qui a fini la course sur un grand rocher. Au moins, plus de 2500 sacs sont partis dans l'eau avec des maïs, mais n'avaient pas de perte de vie humaine. L'avalisage des eaux, mais aussi la diminution des eaux dans la rivière Kasaï, ont fait bouleverser les lignes sur lesquelles les bateaux et les baleinières doivent passer. Mais aussi, les commandants qui conduisent ces histoires-là n'écoutent parfois pas. Les éclaireurs qui leur montrent les chemins à suivre. Aussi, la couleur des eaux qui ont changé de la rivière Kasaï, c'est devenu rouge, c'est ce qui a perturbé au moins les bons déplacements des engins dans la rivière Kasaï.
L'abbé Godet ajoute que quelques jeunes de Dimalumbu venus au secours ont été brûlés et sont soignés en ce moment au centre de santé de la zone. On enchaîne avec le Tanganyika où plusieurs personnes tuées, des femmes violées, des enfants bastonnés et des maisons incendiées. Et tel est le bilan de l'incursion des miliciens à Panapale ce mercredi dans le village de Kisengo en territoire de Nyunzu. Le député national Emmanuel Mukundi qui annonce la nouvelle à Radio Kapi appelle aux autorités à tous les niveau à mettre fin à cette situation. L'élu de Nyunzu s'est confié à Alain Rungmouchi.
Encore une fois de plus, nous déplorons et condamnons les tueries qui se perpétuent dans les territoires de Nyunzu par les rebelles des Apanapale. La semaine passée, ils ont brûlé les villages, ils ont violé les femmes, ils ont tué les gens et frappé sérieusement les enfants. Aujourd'hui encore, autour du village Kisengo, ils viennent de tuer et brûler les personnes. Nous condamnons cela et voilà la raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État de jeter un regard particulier sur le territoire de Nyunzu, comme il a fait pour les Nord Kivu et Ituri. Au territoire de Nyunzu, l'insécurité bat son plein dans le groupement Bango Bango et Bakalanga 2, surtout autour du site minier de Kisengo. Sengo. Ces rebelles profitent avec l'exploitation de l'or d'une manière artisanale pour créer de l'insécurité, pour tuer. Et on remarque effectivement l'absence de l'État dans ces milieux-là. Nous demandons au chef de l'État de pouvoir renforcer le troupe. C'est quelque chose d'un petit groupement et on peut faire taire tous ces bruits qui tuent les gens. Nous comptons presque chaque jour de mort, chaque semaine de mort. Et s'il faut totaliser pour toute l'année, nous avons des milliers de morts.
Dans le même chapitre, à Beni au Nord Kivu, des bandits armés s'introduisent souvent par effraction dans des maisons pour cambrioler dans la commune de Moulekera. Cette situation préoccupe les habitants et la société civile en cette période de l'état de siège. Une correspondance d'André Kitenge.
Depuis plusieurs jours, les habitants de la commune de Moulekera, l'une des communes les plus populaires, située à l'ouest de la ville, sont confrontés à ce reguet d'insécurité. Des individus munis d'armes blanches et à feu s'introduisent par effraction dans des maisons qu'ils dévalisent en portant argent, biens de valeur et autres, et cela malgré le couvre-feu. Une des nombreuses victimes témoigne.
J'étais victime d'une incursion des hommes à main armée. Ils étaient très nombreux. Ils avaient des machettes, armes à feu, tout ça. Ils ont forcé la porte, ils sont entrer, on était obligé de prendre un peu d'argent qui était dans de mallettes pour leur donner ça.
Certains hommes en tenue et porteurs d'armes sont cités par les victimes comme auteurs de ces actes délictueux. Le porte-parole des opérations Sokola 1 souligne que l'ordre avait été donné aux militaires de quitter cette commune, précisant que ceux qui ne le feraient pas seront arrêtés. Lieutenant Anthony Walouchaï.
Que tous les militaires qui ne travaillent pas sous la ville de Beni quittent ces quartiers et entrent au commun Bangou. S'il y a d'autres militaires ou soldats qui continue à rester. En tout cas, il est grand temps que la population nous donne ses adresses et nous allons les arrêter.
Le commandant urbain intérimaire de la police à Beni pense pour sa part que cette situation s'est réduite à la présence des personnes en tenue non identifiées dans cette commune. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et puis en Ituri, environ 10 000 personnes sont sans abri dans la commune de Mungwalu, située à plus ou moins 80 km de la ville de Bunia. Selon la société civile locale, ses habitants ont fui les affrontement entre les FARDC et les miliciens de la CODECO à l'ICI et Itende dans les territoires de Djougou. Cette structure citoyenne redoute que cette situation entraîne une flambée des prix sur les marchés locaux dans cette région minière où la vie est devenue intenable. Le bourgmestre de la commune s'est dit dépassé par les événements. Radio Capibounia, Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis pratiquement 4 jours que les miliciens ont pris d'assaut le centre commercial de l'ICI et la mission protestante d'Itendei. Après plusieurs actes de vandalisme, entre autres le sabotage d'un hôpital public de la place, il s'en est suivi d'un déplacement massif de la population dans la zone. Ces personnes se dirigent vers la commune rurale de Mungwalu. Le président de la société civile de cette entité indique que ces personnes vivent dans des conditions difficiles. Chérubin Kukundilawa.
Mungwalu est enclavé. Depuis bon bout de temps, nous n'avons pas de route. Nous sommes ravitaillés que par des motos. Cette population qui arrive, nous craignons que les gens puissent connaître un temps en carence à vivre dans les milieux.
De son côté, le bourgmestre de la commune de Mungwalu déclare être sans moyens pour prendre en charge ces personnes déplacées. Jean-Pierre Bikilisende lance un appel à la solidarité dans la zone pour venir en aide à ces gens qui ont tout abandonné lors de leur fuite.
C'est une marée humaine que nous sommes en train de recevoir à Mungwalu. Justement, ça me dépasse puisque 10 000 personnes, du coup, quand je dois les recevoir comme ça, comment je vais les loger? Nous, nous sommes des Africains, nous devons être solidaires.
Signalons que c'est depuis le week-end dernier que l'activisme de ces éléments du groupe armé de la CODECO s'est étendu dans cette région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et au Congo central, le maire de Matadi va bientôt déguerpir tous les commerçants qui exposent leurs marchandises sur les principales artères de la ville. Paty Nzouzi l'a annoncé hier mardi après-midi à la presse. Il estime que ces commerçants s'exposent à des accidents. À Matadi, n'en a plus riche Mambou.
À Matadi, au Congo central, les trottoirs des axes principaux au niveau des Kinkanda, du centre-ville ainsi que sur la nationale numéro 1, tronçon compris entre la place 24 novembre et les parkings Les Copains, sont envahis par les commerçants. À Kinkanda, l'axe principal qui reçoit ceux qui viennent de Kinshasa ou d'ailleurs, sont entassés à même les sols, plusieurs biens de seconde main provenant de l'Europe. Sur cet axe, les conteneurs des biens de seconde main que nous appelons bilocost sont déchargés à longueur de journée. Aussi, les véhicules déchargés de ces conteneurs stationnent sur l'emprise durant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils seront vendus. Au centre-ville de Matadi, les abords de la route réservée au passage des piétons sont envahis par des kiosques. Conséquence, les piétons s'effraient les chemins entre véhicules et taxis moto avec tous les risques. Pour Patintuzi Wamakenge, du maire de la ville de Matadi, ce désordre va bientôt cesser.
Nous avons déjà eu l'autorisation de l'autorité provinciale. Là où les gens occupent le trottoir, là où les gens construisent de petites cabanes de fortune, ils nous rencontreront sur leur chemin. Nous allons restituer le trottoir à l'État.
Parmi les retombées de ces désordres, il faut citer les rétrécissements de la chaussée qui, bien sûr, causent les embouteillages monstres à Matadi et des accidents de circulation. Et puis, la ville de Matadi perd sa beauté d'antan. Matadi, Nana Plirich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En fuite depuis que le pays est tombé aux mains des talibans, l'ex-président de l'Afghanistan, Ashraf Ghani, a trouvé refuge aux Émirats arabes unis. Annonce faite ce mercredi après-midi par le ministère des Affaires étrangères de l'Émirat. Au Kai, l'une des villes d'Haïti touchée par le séisme, les habitants ont passé une nuit cauchemardesque. Mardi, les habitants se sont réveillés sous une fine pluie après le passage de la tempête grâce qui avait détruit systématiquement de nombreuses maisons de fortune, des maisons qui avaient été érigées après le séisme de samedi dernier qui a coûté la vie à plusieurs personnes.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé des communications de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi. Ludovic Diomi parle des bourses d'études supérieures octroyées à 57 lauréats ayant obtenu plus de 80% à l'examen d'État. Il s'entretient à Jeudi Cachamin.
Ludovic Diomi, bonjour.
Bonjour.
La première question est de savoir où est-ce que la première dame trouve cet argent alors que l'État congolais n'arrive pas à réaliser une telle opération.
Je ne saurais répondre par rapport aux moyens de l'État congolais sur cette question-là. Comment c'est organisé, je ne sais pas, mais nous, au niveau de la Fondation, nous avons lancé un projet. Ce projet-là, qui est un projet d'octroi de bourses sur une période de 10 ans. Donc notre objectif, c'est d'octroyer 1000 bourses au niveau local et 100 bourses à l'étranger sur 10 ans. Mais chaque année, nous faisons donc un travail de recherche, de financement auprès de partenaires qui sont soit des partenaires financiers, purement financiers comme des banques, soit d'autres organisations non gouvernementales ou d'autres fondations qui nous soutiennent parce que ce sont des contacts que nous nouons et qui croient dans le projet et dans la vision de la Première Dame et qui veulent participer sur le plan social à l'action sociale de la Première Dame qui est la présidente de la Fondation. Et c'est sur base de ça que nous arrivons à obtenir des financements. Donc les moyens ne sont pas extensibles. On a un projet, pas à pas, nous exécutons des budgets d'ailleurs qui sont publics puisque tous nos comptes sont audités et sont publiés. Donc les gens peuvent voir combien d'argent on arrive à mobiliser et ce qu'on en fait.
Quels sont les critères de sélection des bénéficiaires ?
Le critère de base, c'est au niveau de l'examen d'État, puisqu'il s'agit d'une bourse d'études supérieures, d'obtenir au moins 85% à l'examen d'État. Dès lors que vous obtenez ça, vous êtes éligible à la bourse excellentielle. Ensuite, nous, à la Fondation, nous avons créé un test de présélection que nous appelons un test de validation des acquis en partenariat avec les inspecteurs académiques. Nous avons mis en place un test qui va nous permettre en fait d'être encore plus sélectif encore dans le choix des boursiers. À la réussite de ce deuxième test-là, nous donnons les bourses disponibles aux élèves qui réussissent.
Quel est le montant de la bourse accordée à chaque lauréat ?
Au niveau local, la bourse est de 1 200 $ l'année pour nos quelques boursiers qui ont la chance d'aller à l'étranger. Pour ceux qui sont allés vers la France, ils ont une allocation de 700 € par mois. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, 1 000 $ par mois.
Et la bourse couvre quoi exactement ?
Alors la bourse couvre les frais académiques, que ce soit les frais de bibliothèque comme les syllabus, etc. Elle couvre bien sûr les frais de vie. Transport, manger, logement. Voilà, donc en globalité, c'est
la santé, les frais médicaux.
Les frais médicaux, notamment.
Elle est destinée à quel cycle d'études universitaires ? Est-ce qu'il s'agit de la licence, le master, le doctorat ?
La bourse est destinée à prendre en charge la filière qui est directement attaquée par le lauréat de l'examen d'État. Il y en a qui commencent directement, au niveau local, qui commencent directement un graduat. Après le graduat, c'est la licence. Donc, on part sur un cycle de 5 ans, 3 ans de graduat plus 2 ans de licence. Mais il y a des filières différentes. Par exemple, des filières comme la polytechnique qui demandent de faire une année de prépa. Et avant attaquer un cycle de graduat. Donc ça dépend des filières, ça évolue en fonction des filières, mais la bourse elle-même, elle est donnée d'abord pour 5 ans.
Et quels sont les engagements pris avec les bénéficiaires? Est-ce qu'ils vont retourner au pays? Est-ce que la bourse peut être retirée ou pas?
Oui, tous les boursiers à qui on donne cette bourse signent un contrat avec la fondation. Un contrat, bien sûr, qui va les engager à respecter des normes d'éthique et puis à respecter un engagement, disons, à s'investir dans leurs efforts pour leurs études, de faire le maximum pour réussir. Bien sûr, la bourse n'est valable que lorsque l'étudiant valide chacune de ses années, académiques doit être validée. Dès lors qu'un élève échoue une année, la bourse s'arrête. Ça, c'est de un. Et de deux, il y a une clause concernant nos élèves qui sont partis à l'étranger, bien sûr que de revenir au pays à l'issue de leur cycle de formation, à l'issue de leurs études, de revenir au pays pour travailler, bien sûr, c'est un engagement qui est pris entre chaque boursier et la fondation.
Première édition, il y a eu 114 bourses qui ont été accordées. Cette édition, 57. Pourquoi cette réduction?
Pourquoi cette année, on est passé à 57? C'est parce que le nombre de 57 correspondait au nombre de bourses qui avaient tout simplement disponibles à donner cette année. Et comme nous avions beaucoup d'élèves qui avaient réussi à faire plus de 85%, je crois, de mémoire, c'était 224 cette année, il a fallu tamiser encore un peu davantage, faire encore un test de présélection pour obtenir les meilleurs des meilleurs. Et si l'année prochaine, nous avons encore moins de bourses, il faudra faire une sélection encore plus rigoureuse parce que l'excellence, c'est l'excellence et il faut être excellent pour mériter une bourse excellentielle.
Ludovic Diomi, chargé des communications de la Fondation Denis Nyakeo Tshisekedi, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi. Il était interviewé par Jodine Kachama et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Alain Rungmouchige et Peliki Pelamondo qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi.